Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Racines, écorces ou feuilles, gélules ou injections pharmacopées africaines et occidentales, deux médecines, deux façons de soigner longtemps opposées. Et cette rivalité entre ces différentes ressources pour traiter la maladie reste d'ailleurs d'actualité pour certains. Mais aujourd'hui, c'est à l'inverse de convergence, d'emprunt, d'enrichissement mutuel dont il va être question pendant cette émission. Qu'est-ce qui rapproche le remède chimique évalué par des tests codifiés à la pharmacopée transmise de génération en génération? Comprendre comment peuvent cohabiter une consultation au CHU et une visite chez le guérisseur? Quelles précautions prendre lorsque l'on utilise des remèdes issus de ces deux écoles? Nous essaierons donc de comprendre comment le savoir scientifique acquis sur les bancs de la faculté de médecine peut être compatible et dans certains cas intégrer des pratiques ancestrales. Différences, convergences, sans occulter les excès de l'ordonnance délivrée à la chaîne qui néglige la clinique et l'humain, aux bonimenteurs prêts à exploiter la crédulité publique. Car au-delà de ses compétences et des savoirs, toute médecine, de Stockholm à Maputo, en passant par Paris et Abidjan, compte aussi un certain nombre de charlatans. Et avec nous pour parler de la pharmacopée africaine, docteur Alain Epelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin anthropologue au Centre National de la Recherche Scientifique, au CNRS, consultant pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Bénin le professeur Roch Ounia, maître de conférence en anthropologie de la santé à l'université d'Abomey-Calavi. Nous donnerons aussi la parole au docteur Fatima Tassi, docteur en pharmacie titulaire d'une officine de pharmacie à Dakar, ancienne coordinatrice de ENDA Plantes Médicinales, cette ONG internationale. Et puis, nous retrouverons en ligne Jacques Florentin, docteur en pharmacie, ethnopharmacologue, président de la Société française d'ethnopharmacologie. Et en fin d'émission, vous retrouvez le docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Une émission de Priorité Santé qui a été conçue en partenariat avec Votre Santé Magazine, le numéro 10 du trimestriel panafricain, est disponible depuis le 30 avril dernier.
Priorité Santé sur RFI.
Alors dans quelques minutes, comme promis, on va aborder notre thème du jour, mais d'abord l'actualité de la santé, c'est bien sûr, nos auditeurs l'entendent dans les journaux de RFI, notamment les éditions africaines, depuis plus d'une semaine maintenant, ce nouveau foyer de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, dans le nord-ouest du pays, dans la province de l'Équateur, avec sur place près d'une quarantaine de cas suspects, 42 signalés, 19 morts. Il y a deux cas confirmés, donc un certain nombre de cas suspects, avec parmi ces cas suspects, certains signalé dans la capitale provinciale, Mbandaka, ville qui compte tout de même 700 000 habitants. Alors, docteur Alain Epelboin, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant de cette épidémie, en particulier des zones justement où des cas avérés ou non ont été signalés?
Je ne sais pas ce que l'on sait. Moi, je ne sais pas grand-chose, si ce n'est les CITREP, les bulletins épidémiologiques publiés par l'OMS. Et pour l'instant, ce que j'ai retenu, c'est qu'au départ, on était dans un petit village enclavé à 30 km à l'est de Bikoro, auprès du lac Tumba. Et maintenant, il est question de cas suspects, pas forcément confirmés, à Bikoro, bien sûr, dans le village originel, mais également dans un des quartiers proches de Mbandaka, et ce qui explique pourquoi c'est ce qui explique pourquoi l'OMS à l'heure actuelle a immédiatement mis un niveau l'OMS plus MSF plus les autres organisations plus les autorités gouvernementales, bien évidemment, ont mis un niveau d'alerte extrêmement élevé, parce que on n'est pas dans un cas enclavé au fin fond d'une route forestière aboutissant sur une sous-préfecture enclavée. À partir de Bikoro et à partir de Mbandaka, il y a des grands fleuves qui permettent de communiquer très rapidement vers des grandes capitales régionales. Donc la leçon de l'Afrique de l'Ouest, là, le niveau d'alerte a été placé d'emblée très haut.
La leçon de l'Afrique de l'Ouest, hein, la crise de 2014-2016, quand l'épidémie avait fait plus de 11 000 morts, on s'en souvient, en Guinée, Libéria, Sierra Leone, principaux pays touchés. En tout cas, ce que l'on entend, docteur Alain Epelboin, c'est cette grande prudence, on va dire double prudence, aussi bien en termes de cas, parce qu'il faut aller doucement, il faut que les analyses aboutissent avant de dire il y a tant de cas avérés ou non. Et puis, la prudence, là, au niveau des autorités locales, des autorités de santé internationale, parce que face à Ebola, on n'est pas face à un virus comme les autres.
Ben, on est face à un virus très impressionnant, c'est-à-dire qui, quand il a été découvert dans les années 76, on était à une période de médecine triomphante. On pensait il y avait pas encore le sida, donc on pensait que la médecine allait triompher. Et surtout, on retrouvait les cauchemars anciens, c'est-à-dire que les personnels soignants, les meilleures personnes, celles que ce soit au nom d'une médecine traditionnelle, vont se coucher avec le malade, vont le masser, vont être en contact intime, c'est celles-là qui vont mourir en premier. C'est la sage-femme qui va accepter de soigner quelqu'un qui n'a pas d'argent ou des choses comme ça. Donc c'est une maladie absolument terrifiante.
Aussi bien pour sa représentation au niveau de la société, ce qui est très important en tout cas, on l'a compris, vous parlez de la proximité des personnes touchées avec les malades, donc il y a bien évidemment, docteur Epelboin, des mesures de précaution à rappeler pour éviter la transmission du virus.
Oui, absolument. Mais en terminant sur le point précédent, en ajoutant que ce qui caractérise aussi ces épidémies d'Ebola, comme les épidémies de peste, comme d'autres maladies graves, c'est la stigmatisation.
Et la représentation.
Voilà. C'est-à-dire que celui qui tombe malade, c'est pas une victime, éventuellement il l'a cherché, ou on va l'agresser, ou on va l'accuser de propager la maladie. Alors maintenant, pour venir aux mesures anti-Ebola, elles sont nombreuses et j'ai peu de temps, mais c'est l'identification des cas, les enquêtes épidémiologiques, le suivi des personnes qui sont en contact pour savoir chaque jour est-ce qu'il y a de la fièvre, pas de fièvre, la prise en charge des malades, avec quand c'est pas possible une prise en charge avec la famille à qui on donne des gants et de l'eau de javel à 0,05% pour se laver les mains, ou à défaut du savon, ou la mise en place d'un centre de traitement Ebola. Contrairement à ce qu'il y avait au début des épidémies d'Ebola, les équipes des MSF font une hospitalité maximum, les gens sont bien nourris, bien lavés, on donne des nouvelles aux malades, on met des téléphones à l'intérieur pour qu'ils puissent communiquer avec les parents. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir sur la qualité des soins qui sont donnés.
Parce qu'il y a eu un moment donné où les gens avaient peur d'aller se faire soigner parce qu'ils se retrouvaient confinés, isolés, ils étaient coupés de la famille. Là, c'est différent, on a tiré véritablement les enseignements de la précédente épidémie.
Oui, ça ne change pas forcément les résistances. Mais au moins de ce côté-là, c'est efficace. Alors, du côté des médicaments, on n'a pas encore de médicaments dont on a la preuve expérimentale. Il y a des vaccins très prometteurs, mais il faut savoir que les vaccins, même s'ils sont là, il y a des résistances dans tous les milieux du monde. Regardez à l'assistance publique à Paris, 5% des personnes soignantes sont vaccinées contre la grippe alors qu'ils sont des propagateurs. Donc, c'est une arme formidable quand elle marche, mais encore faut-il que la population l'accepte.
Toute dernière question, 8e épidémie d'Ebola qui touche la RDC, comment expliquer cette récurrence ?
Parce que on parle de la diversité des écosystèmes, la diversité biologique, des petits animaux mignons, des insectes, mais aussi des virus. Et on sait de façon certaine que, au départ, le virus du sida était un virus de forêt profonde qui est passé chez les humains. Et le virus Ebola, même si on n'a pas la certitude absolue, mais enfin, en tout cas, je crois cette certitude. Le réservoir, ce sont les chauves-souris. Et il faut savoir que dans les régions de Bandaka, qui sont des régions d'ancienne colonisation, donc de colonisation très anciennes, il y a des plantations de palmiers à l'huile qui, à l'heure actuelle, sont devenues des haltes nourricières. Et chaque année, même s'il y a très peu de virus parmi les chauves-souris, une sur un million, il y en a tellement qui passent qu'ils peuvent reprovoquer l'épidémie.
Merci docteur Alain Epelboin.
Juste, n'oubliez pas la mesure individuelle. Il y a toutes les grandes mesures, oui, ça c'est très bien. Oui. Mais moi, si je suis père de famille là-bas, ou mère de famille, et que j'ai des enfants qui partent à l'école, je prends le savon qui est fabriqué par une personne du coin, le savon local très gras qui casse bien la paroi des virus. J'en donne un petit morceau enveloppé dans une feuille de mangue que je donne à mes gamins en leur disant si t'as contact avec quelqu'un qui est en sueur ou qui est un peu chaud, là, tout de suite tu te laves les mains, tu te laves le visage avec le savon. Et la protection, c'est les grandes mesures, mais c'est aussi les petites mesures.
Au niveau de chacun. Merci pour cet éclairage. Vous restez avec nous et on va bien sûr continuer de parler régulièrement finalement de cette résurgence d'Ebola en RDC dans Priorité Santé. Tout de suite, on revient à notre thématique, la pharmacopée africaine.
Priorité Santé sur RFI.
Et on retrouve en direct du Bénin le professeur Roch Ounia. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes anthropologue de la santé, coordonnateur du programme national de la pharmacopée de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé au Bénin. On est en plein hein, dans notre sujet. Justement, ce programme pharmacopée au sein du ministère, ça consiste en quoi exactement?
Oui, effectivement, dans l'ensemble des pays de l'Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, il y a une initiative harmonisée caractérisée par la mise en place d'un tel programme dans nos différents pays et qui a, dont les interventions s'articulent autour de quatre points essentiels. D'abord, la réglementation, comment accompagner les acteurs, les professeurs de la médecine dite traditionnelle à travers un cadre institutionnel réglementaire. Parce que lorsqu'on parle de médecine traditionnelle, on pense notamment aux produits de cette médecine, c'est-à-dire les médicaments. On pense également aux acteurs, les praticiens qui peuplent les villes et campagnes de nos pays. On pense également aux pratiques, les pratiques en termes de traitement des fractures, les pratiques en termes d'extraction de dents, les pratiques en termes de traitement des malades mentaux, etc. Donc au niveau du ministère de la Santé, nous avons pour tâche d'assurer la réglementation de ces différentes pratiques, donc mettre en place des codes de déontologie, des codes d'éthique, etc. Le deuxième axe, c'est le renforcement des capacités. Comment, par exemple, former ce que nous appelons affectueusement guérisseurs traditionnels sur les maladies courantes. Aujourd'hui, c'est les épidémies. On parle de maladie à Ebola, on parle également de l'affaire de Lassa.
Qui avait donc touché le Nigeria le mois dernier.
Même le Bénin également.
Le Bénin, la frontière, oui.
Bien sûr, oui. Le Bénin, nous avons connu quelques cas de fièvre de Lassa, avec quelques décès. Et le troisième axe d'intervention au niveau du ministère de la Santé est en lien avec le développement de la recherche. Pour vraiment insister sur ce point, comment faire en sorte que les médicaments à base de plantes puissent être évalués du point de vue de leur efficacité, du point de vue de leur innocuité et du point de vue de leur qualité. Lorsqu'on parle d'efficacité, lorsque par exemple un guérisseur traditionnel vous amène une potion, un remède, et dit que cela a une activité anti-hypertensive, il faut vraiment pouvoir le prouver à travers des essais cliniques ou des évidences ethnomédicales. Il faut également vérifier la qualité du produit. Dans le processus de fabrication du produit, depuis la cueillette de la plante au champ jusqu'au produit consommable, le produit peut être sujet à contamination. Contamination par les excréments humains, pendant le séchage également à domicile. Donc, il faut vraiment s'assurer que le produit est exempt de germes microbiens. Ça, c'est le deuxième élément d'évaluation des remèdes à base de plantes. Et le troisième, c'est l'innocuité. C'est vrai, votre produit peut avoir une activité anti-hypertensive, mais parallèlement avoir des effets sur le cœur, sur le foie, etc. Donc, il faut pouvoir évaluer cela. Donc, nous, au niveau du ministère de la Santé, nous avons pour mission d'accompagner ces acteurs-là dans le point de la recherche sur ces éléments-là. Quatrième axe d'intervention d'un programme de la médecine traditionnelle tel que le nôtre, c'est être en lien avec le partenariat. Comment assurer la collaboration entre les guérisseurs traditionnels et les professionnels de la médecine dite moderne au niveau des centres de santé? Comment, par exemple, dans un village, le guérisseur pourrait être sensibilisé à amener un malade auprès de l'agent de santé pour le diagnostic? Comment un agent de santé également, lorsqu'il sait, par exemple, qu'un guérisseur à proximité est excellent dans le traitement des fractures, pourra lui référer un cas et faire le suivi en termes de pratiques d'hygiène, en termes d'accompagnement en antibiotiques, en termes d'accompagnement pour gérer la douleur. Voilà. Donc, ce sont ces quatre grands axes d'intervention. Et c'est autour de ces quatre axes que s'articulent les actions du ministère de la Santé.
Et qui plaident justement en faveur de cette cohabitation. Professeur Ounia, on va vous retrouver en fin d'émission tout à l'heure. Je me retourne vers vous, docteur Alain Pelleboin, en studio, médecin anthropologue. On a entendu hein, cette véritable coexistence entre ce qu'on peut dire savoir traditionnel et médecine conventionnelle, avec côté traditionnel une façon différente de percevoir, d'appréhender le processus de guérison, avec justement pas mal de choses qui échappent à la rationalité scientifique, en tout cas à ce que la médecine conventionnelle range sous ses preuves de l'ordre du test, du biomédical.
Oui. Alors, je répondrai à deux niveaux. La description qu'a donnée notre collègue est très intéressante. En fait, ce sont des programmes qui sont mis en place après les indépendances pour valoriser des, entre guillemets, médecines traditionnelles qui avaient été écrasées par la colonisation et dans une logique de valorisation culturelle. Et aussi des dimensions panafricanistes à certains moments, pan-nationaliste, qui fait qu'on pense qu'on a un peu le monopole d'une certaine efficacité. Donc ça, c'était la première chose. Donc là, on s'inscrit, ce qu'on vient d'entendre, on s'inscrit dans un mouvement de scientifiser les choses. Par contre, le problème qui est posé, c'est que dire que les médecines traditionnelles sont efficaces, et traditionnelles fait problème parce que ça se renouvelle tout le temps, mais enfin bon, on va prendre cette appellation, sont efficaces, oui, il n'y a absolument aucun doute, dans certaines indications, dans certaines personnes. Elles sont efficaces parfois parce que le remède administré a un contenu pharmacologique en rapport avec la maladie qui est donnée. La digitaline qui venait d'une plante, quand c'était donné à des gens pour que c'était l'indication, c'est très bien. Mais c'est aussi des poisons lorsqu'ils sont donnés. Donc il y a l'argument pharmacologique. Et puis on se retrouve avec plein de plantes ou des remèdes comme les amulettes que j'ai apportées ici, des crânes d'animaux, il y a pas d'efficacité pharmacologique. Mais pourtant quand les gens les utilisent dans un certain rituel, ça va procéder à des soulagements, des sensations de bien-être. Donc moi je m'intéresse surtout à penser d'un point de vue scientifique, quand il n'y a pas de contenu pharmacologique, comprendre pourquoi ça marche, en laissant de côté à ceux qui veulent y croire des explications de type mystique.
Avec justement une question de l'homologation, ceux qui cherchent justement à tout prix à avoir la fameuse preuve scientifique, docteur Eppelboin, qui disent tant que je n'aurai pas cette preuve sous les yeux, ben en gros je crois ce que je vois. Et puis de l'autre côté, ceux qui sont dans l'expérience, dans la pratique, et aussi dans cette dimension essentielle du relationnel.
Oui, tout à fait. Mais cette homologation, en même temps, là, on l'a décrit sur des bases strictement scientifiques. Mais il faut bien penser qu'entre ce que nous avons nommé ici les médecines traditionnelles, s'appuie non pas, comme la biomédecine, sur une explication génétique ou une explication statistique pour dire pourquoi moi j'ai la rougeole et mon voisin il a pas la rougeole, pourquoi j'ai Ebola et pourquoi ces inégalités. Et ces remèdes s'inscrivent dans un système de pensée où la causalité, le sens du mal, va être cherché dans une agression de sorcellerie anthropophage qui vous dévore la substance vitale, dans des ruptures d'interdits, dans des ancêtres mécontents, dans des génies de l'environnement avec qui on n'a pas su entretenir la relation. Et il y a une prééminence du soin de la causalité, finalement, sur les soins du symptôme. En vous rappelant quand même qu'il y a beaucoup de maladies qui évoluent naturellement très bien.
Bon, on va vous retrouver, docteur Alain Eppelboin. On va prendre tout de suite en ligne Jacques Florentin. Jacques Florentin, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Vous êtes ethnopharmacologue dans l'Est de la France. Vous tenez une pharmacie herboristerie, c'est bien comme ça qu'on appelle votre boutique ?
Oui, il y a une pharmacie herboristerie dans laquelle nous avons un grand nombre de plantes médicinales, soit sous forme de plantes en vrac, soit sous forme de médicaments ou de compléments alimentaires. Et puis il y a aussi la Société française d'ethnopharmacologie qui, elle, s'occupe du développement et du contrôle de toutes ces plantes qui nous viennent de tradition.
Ethnopharmacologue Jacques Florentin, comment avez-vous acquis votre savoir ?
Alors j'ai acquis mon savoir d'abord sur les bancs de la faculté, j'ai eu Jean-Marie Pell comme professeur et j'ai été fasciné par le personnage scientifique et humaniste. Et ensuite je suis parti au Yémen comme pharmacien coopérant, responsable d'un laboratoire d'analyse médicale, mais j'avais un sujet de thèse en poche qui était l'étude des plantes médicinales du Yémen. Et j'ai eu la chance sur place d'avoir une collègue anthropologue américaine qui avait le même sujet que le mien, sauf que moi je venais des sciences naturelles et elle venait des sciences sociales. Et on a vu la pertinence de l'association des deux dans la compréhension des médecines traditionnelles. Et ensuite, quand je suis rentré en France, j'ai monté un laboratoire de recherche de Jean-Marie Pelt avec une approche tout à fait nouvelle. On ne s'est pas intéressé aux molécules, comme on l'a vu tout à l'heure avec la digitale qui donne la digitaline. On s'est intéressé à l'efficacité des extraits tels que nous les conseillent les tradipraticiens. Et quand l'outil pharmacologique est appliqué sur un extrait de plante complexe, dans lequel on n'a pratiquement pas la possibilité de sortir une molécule active, eh bien, on confirme les données des guérisseurs dans 80% des cas. Donc on a une pertinence tout à fait exceptionnelle des savoirs traditionnels, et quand on utilise un outil chez l'animal, où là le placebo ne fonctionne pas, eh bien on a des résultats impressionnants quand on les compare à des molécules de synthèse de référence.
Jacques Florentin, docteur Alain Epelboin, vous restez avec nous, on va partir tout de suite pour une petite immersion.
Priorité santé sur RFI.
Reportage dans le 18e arrondissement à Paris, Château Rouge, hein, où Raphaël Constant a passé la porte d'une boutique sans enseigne, petit local où Alassane Traoré propose de multiples plantes, des poudres importées directement d'Afrique de l'Ouest.
Mon nom c'est Traoré Alassane.
On est dans votre boutique à Château Rouge et on est entouré de plantes qui sont rangées dans des caisses. Oui. Il y a combien de sortes ici? On a au moins une centaine, c'est ça? Une centaine de plantes différentes?
Il y a beaucoup de plantes différentes.
Et dites-moi, comment vous avez appris l'usage de toutes ces plantes?
Il y a mon papa qui faisait, il y a le grand-père qui faisait aussi, il y a ma mère aussi qui fait. C'est un don pour la famille. Ça, c'est un médicament, on appelle ça ngalama. C'est une plante qui est très très bonne. Ceux qui ont des problèmes de diabète, tu le fais bouillir, la personne peut se laver et puis il peut boire aussi. Pendant 9 jours, pendant 7 jours. Ça nettoie aussi, oui, pour la fatigue.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va et vous?
Ça va bien.
Qu'est-ce que vous venez acheter, madame?
Et je vais acheter des feuilles pour ma petite fille. Tout ça, c'est pour soigner. Traditionnel, c'est ça.
C'est pour soigner quoi?
Ah, celui qui croit.
Qu'est-ce qu'elle a, votre petite fille?
Ah, elle se sentait pas bien. Elle n'est pas bien. Elle tremble.
Qu'est-ce que vous avez vendu à la femme pour sa petite fille qui est malade?
Donc, c'est une plante, comme l'enfant, il se sent pas très bien. Dans nos coutumes, quand on fait ces plantes, il se lave. Dieu va nous permettre de lui donner la santé.
Et c'est quoi comme plante?
Bon, ces plantes, on appelle ça aladjo. On peut trouver ça au Mali, comme au Burkina, au Côte d'Ivoire aussi. Cette plante-là, c'est très bon. Pour les mal au dos, mal partout, bon, ceux qui ont des problèmes de genoux.
Et vous savez comment l'utiliser, madame?
Ça bouillir et c'est lavé.
Et vous utilisez souvent les plantes pour vous soigner en complément?
Ouais. Ça purifie, ouais, ça nettoie. Et j'ai acheté les ngundje pour les os malades. Comme nous, on a l'arthrose. Voilà, donc ça aide franchement à nettoyer.
Là, toutes vos plantes, elles viennent d'Afrique de l'Ouest?
Oui. Bon, ces plantes-là, pour la toux.
C'est des grandes tiges séchées, en fait.
Il y a des gens aussi qui ont toujours mal à la tête. Ils n'arrivent pas à dormir. Tu laves la tête avec ça, avec le savon noir. Mal à la tête, ça passe.
C'est incroyable, mais vrai, mais c'est des plantes qui sont là, qui soignent avec la volonté de Dieu. Qui nous aide beaucoup. Je suis venue chercher ben, des caractères.
Du beurre de karité, vous êtes venue chercher. Pour faire quoi?
Par exemple, quand la femme accouche, beurre de karité, tu mets au feu pour faire fondre. Après, on fait le massage avec le nouveau-né, depuis le premier jour jusqu'à l'âge de 6 mois. Après le bain, je le masse avec.
Et vous utilisez beaucoup les plantes pour vous soigner, madame?
Oui. Je vois le docteur aussi. Hein. Je consulte le médecin. Mais le plante, ça m'aide beaucoup. Par exemple, celui-là, on appelle Frocofraca.
C'est des plantes... Je peux en attraper une?
Oui.
Alors, c'est des plantes séchées qui n'ont pas d'odeur. Quand on sent, ça n'a pas d'odeur.
Ça peut aider les femmes beaucoup de choses. Femmes comme garçons. Si tes activités ne marchent pas, par la grâce de Dieu avec les plantes, tes activités marchent très bien.
C'est comme un gris-gris, en fait.
Voilà, c'est comme, exactement comme un gris-gris.
Qu'est-ce que vous êtes venu acheter?
Bon, c'est un médicament pour le hémorroïde. Donc, j'ai soigné avec un médicament pharmacie. J'achète des pharmacies toujours. Mais ça n'a rien donné, des résultats. Mais avec ça, j'utilise. Ça calme quand même. Je ne suis pas parti définitivement, mais ça calme les douleurs. On appelle atoté. Et ça soigne l'hémorroïde. Voilà.
Et comment vous l'utilisez?
Après chaque repas, je prends une cuillère. Le matin et le soir.
Donc en Côte d'Ivoire, on fabrique ça à Korogo. Donc ils soignent beaucoup de maladies. Les djula disent coco. Nous les Africains, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Il faut dire coco. C'est un truc, souvent même ça sort par derrière. Si la personne veut s'asseoir sous la fauteuil ou bien sous la chaise, il ne peut pas. Il est obligé de se coucher sur un côté. Ce produit est là pour ça. Il y a des garçons qui ont des faiblesses. Quand il veut faire l'amour avec la dame, il gagne pas la force. Ce produit, s'il prend ça, ça va lui permettre de produire enfant. Il est duré, madame.
Il est différent de celui que j'ai à la maison.
Ah, ça c'est le duré.
Ouais. Bon, c'est simple, hein. C'est pour tout ce qui est vers les ascaries, les oxures, etc. Donc voilà, il y a des traitements ici en France, mais ils ne fonctionnent pas forcément sur tout le monde. Donc moi là, je suis en train de faire des analyses là justement, mais la plante que je prends depuis maintenant un mois et demi, je sais pas si tout est parti, mais en tout cas ça fait des effets parce que ça nettoie mon ventre. Et j'ai mon ami qui m'avait vu il y a 2 semaines et qui me dit que j'ai changé de teint, que ça a l'air d'aller mieux. Et moi, je le sens légèrement, mais je peux pas encore dire si tout est parti. Mais sur ma fille, ça marche.
Et c'est quoi le nom de cette plante?
Bah, c'est celui-ci notamment, le Joroburu. Ça a énormément de vertus et il faut faire attention avec ce que vous prenez ou pas. Là, au niveau du dosage, au niveau de votre âge. Donc généralement, les vrais thérapeutes, ils vous posent toutes ces questions.
Jacques Florentin, est-ce que vous connaissez certains des produits cités dans ce reportage signé Raphaël Constant? On a entendu parler d'anti-hémorroïdaire, d'anti-parasitaire. Vous connaissez ces produits?
Alors, j'ai pas bien compris les noms traditionnels, parce que l'uniformité, c'est donner le nom latin, parce que là, on est tous sur la même longueur d'onde. Mais c'est certainement des produits qui sont connus de la pharmacopée locale, et avec les noms latins ou avec un équivalent vernaculaire, on peut effectivement savoir de quelle plante il s'agit. Mais là, je n'ai pas compris de quelle plante...
En tout cas, on a entendu la présentation de ces produits, on va dire des plantes séchées, des écorces brutes. Jacques Florentin, l'herboristerie emploie justement ces feuilles, aussi des poudres ou peut-être des essences. Qu'est-ce qui détermine le recours à telle ou telle présentation?
Alors, deux questions d'abord. La première, c'est le problème de la qualité. En Europe actuellement, on a la chance d'avoir l'Agence européenne du médicament qui, pour les 27 pays de la communauté, publie régulièrement des listes de plantes médicinales et des monographies de contrôle de plantes médicinales reconnues par tous les pays européens. C'est un progrès considérable. Il faudrait souhaiter que pour l'Afrique, ça soit la même chose. C'est-à-dire la pharmacopée africaine a démarré en 85, il y a eu 2 hommes, et puis il n'y a plus énormément de travail unifié au niveau de toute l'Afrique. Et actuellement, un document de la pharmacopée des plantes médicinales de l'Afrique de l'Ouest, mais qui n'est encore pas complet, il n'y a encore pas les monographies de référence. Le jour où l'Afrique arrivera à se doter de ses monographies de contrôle, eh bien, ça permettra de réguler la qualité. En tant que pharmacien, quand je rentre des plantes médicinales dans la pharmacie, et je veux qu'elles soient conformes à la pharmacopée européenne. Ça me garantit une non-toxicité, une qualité des produits et une efficacité. Et ça, c'est les critères de sélection. Et je pense que pour l'Afrique, on a tous les éléments. Il y a largement suffisamment de travaux sur de très nombreuses plantes. Il reste un petit consensus à faire sur les monographies de contrôle pour pouvoir contrôler ces plantes et être sûr de la qualité.
Une dernière question, Jacques Florentin, en ce qui concerne le statut de l'herboristerie en France, longtemps banni, quasi illégal. Est-ce que vous avez l'impression que les choses, les règles sont en train de changer dans ce domaine?
Écoutez, il faut constater qu'il y a une demande parce que de plus en plus de personnes souhaitent pouvoir se traiter par l'herboristerie, par des plantes médicinales. Vous me posez la question aussi des formes. On peut avoir soit des formes sèches, plantes en tisane, soit des formes concentrées sous forme de médicaments à base de plantes. Ce sont des extraits, extraits secs ou extraits fluides. Et en ce qui concerne l'herboristerie, le problème, c'est que les pharmaciens actuellement ne sont pas suffisamment nombreux pour répondre à la demande. Tous ont une formation à l'université pendant leurs études, mais toute connaissance nécessite des mises à jour régulières. Et donc, pourquoi pas redonner un statut aux herboristes, c'est pas quelque chose pour lequel on soit hostile. Par contre, il faudra bien travailler sur l'harmonisation de la formation et surtout le contrôle des connaissances.
Et d'ailleurs, le Sénat a lancé une mission, hein, une mission d'information sur ce thème. Oui, si vous voulez conclure, Jacques Florentin.
Oui, je voulais encore juste rajouter un élément. Sur les plantes africaines, on a des trésors extraordinaires. On a l'Artagophytum, tout le monde connaît parce que maintenant il est en Europe, mais on a maintenant pas mal de plantes de l'outre-mer qui sont rentrées dans la pharmacopée française Et du coup, les pharmaciens auront accès à bon nombre de plantes, dont certaines sont présentes en Afrique. Je pense au Philanthus amarus, qui est une plante qui a des activités antivirales contre l'hépatite B extrêmement intéressantes. On a des plantes banales comme le baobab. Chacun sait maintenant que l'OMS a mis en point un soluté de réhydratation à partir de baobab pour les nourrissons qui ont des diarrhées. On a parlé tout à l'heure des plantes antihypertensives. On a l'hibiscus, le carcadé, le bissap, dont on connaît le mécanisme d'action antihypertenseur. Il y a certaines molécules de cette plante qui vont avoir un effet sur la transformation de l'angiotensine en angiotensinogène. Donc on a même le mécanisme d'action. On a des laxatifs doux comme le tamarin, exceptionnel. On a des plantes comme le sagara qui ont une action sur des maladies graves comme les drépanocytoses. Donc vous voyez, la pharmacopée africaine est d'une richesse extraordinaire. Il faut maintenant un consensus pour avoir des listes de plantes pouvant être autorisées. Il y a des pays qui sont très avancés, comme le Mali. Un autre pays qui est très avancé aussi, c'est le Burkina, qui organise tous les deux ans un congrès et qui a la particularité d'associer à la fois des tradipraticiens et des universitaires. Et ceci est intéressant parce que c'est pour monter aux tradipraticiens. Ils viennent dans le congrès, ils ne comprennent pas tout bien évidemment, certains vont leur traduire ensuite les données essentielles, mais pour dire, travaillez avec les scientifiques. Nous ne sommes pas là, les scientifiques ne sont pas là pour piller vos recettes, mais au contraire pour vous montrer que c'est efficace dans certains cas, qu'il faut reconnaître ses limites quand on traite avec les plantes, mais c'est surtout fait pour une bonne collaboration. Et je trouve ces exemples du Burkina tout à fait extraordinaires.
Un partage équitable.
Et donc il y a un avenir, oui.
Un partage équitable, Jacques Florentin, je suis navrée, je suis obligée de vous interrompre pour des questions de temps. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et ethnopharmacologue. Merci infiniment pour cet éclairage. On a entendu tout à l'heure docteur Alain Epelboin dans le reportage citer pas mal de décoctions, de bains, une pharmacopée, qui s'appuie sur des vertus purifiantes. Qu'est-ce que ça veut dire une vertu purifiante? Se purifier de quoi?
De miasme, d'une pollution, mais qui n'est pas dans le registre scientifique, qui est la pollution qui faisait que dans les églises catholiques de l'ouest de la France, il y avait une porte latérale pour que les femmes accouchées ne rentrent pas par l'entrée principale parce qu'elles étaient polluées et qu'une messe des relevailles leur soit donnée en rentrant sur le côté à partir de là. Bon. Donc la pollution, on démarre par la pollution du sang menstruel. Enfin, si on veut avoir l'étalon de référence.
Alors, on va donner la parole à un auditeur qui est en ligne du Niger, de la ville de Maradi. Cet auditeur, c'est Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour chers auditeurs et auditrices de la Radio Mondiale.
Ah, on vous écoute, Ibrahim.
Voilà, je suis très heureux de participer à cette émission. Et là, je voudrais faire cas d'une maladie à laquelle je me suis confronté à un moment donné, c'était en 2014. Donc, c'est une plaie que j'ai contractée à la suite d'une démangeaison. Alors là, j'étais chez le médecin dermatologue. Donc, il m'a donné des comprimés et des pommades. Je faisais le traitement, mais ça n'a pas marché. Il m'a fallu être orienté chez les guérisseurs, donc les praticiens de la médecine traditionnelle. Donc, pendant 9 mois, vraiment, il m'a donné des écorces et ça a marché, ça a marché.
Ces écorces, vous les apposiez directement sur la plaie, vous faisiez avec des décoctions. Comment se passait le traitement précisément?
Voilà, pour le traitement, je me lavais avec une partie, je mets sur la plaie.
Et quand vous alliez voir le tradipraticien, c'était toujours le même remède qu'il vous donnait ou à chaque fois il observait votre plaie ou vous donnait d'autres conseils?
Chaque semaine que je partais, c'est un autre remède qu'il me donne.
Un nouveau remède. Ce n'était pas toujours la même plante, ce n'était pas toujours la même écorce.
Voilà. Si pendant la semaine, ça n'a pas marché, donc l'autre semaine, il va changer un autre. Et ainsi de suite.
Et aujourd'hui, la maladie est complètement guérie. Ça veut dire que vous avez, d'une certaine manière, davantage confiance en ce tradit praticien quand la solution que vous avez proposée, la médecine dite moderne.
Et la solution, en tout cas, j'ai trouvé une solution, j'ai un sentiment de confiance. Parce que à un moment donné, lorsque je partais chez le médecin, à une certaine période, lui-même, il ne m'a pas inspiré confiance lorsqu'il m'avait demandé l'origine de la plaie. Et donc l'entourage m'a dit, bon, cette maladie-là, vraiment, c'est pas facile de trouver une solution chez les médecins, il faut aller chez les guérisseurs. Et là, vous voyez, ça a marché.
Merci beaucoup Ibrahim pour ce témoignage, docteur Alain Epelboin. On voit une tentative avec les deux écoles différentes et puis finalement pour rester avec la solution proposée par le tradipraticien qui mise sur la durée. 9 mois.
Non, elle mise sur quelque chose, des choses beaucoup plus subtiles que ça. Vous entendez le propos de ce monsieur. On est typiquement dans une maladie d'auto-attouchement. C'est-à-dire, on a une piqûre d'insecte, une blessure, on la touche, on la gratte, elle se surinfecte. Et puis, on sait que quand on a des problèmes dans la tête, on va, sans s'en rendre compte, se gratouiller. Donc, moi, dans des cas comme ça, mon premier cas de charlatanisme, entre guillemets, que j'avais fait au Sénégal oriental, j'avais un tube d'antimycosique et j'avais une dame qui était couverte de plaies comme ça qu'elle se contaminait. Et je remarque qu'elle était musulmane, mais elle utilisait indifféremment la main droite ou la main gauche pour se gratter. Donc, elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Donc, je la rappelle aux règles de l'islam que la souillure, on la touche avec la main gauche. Ensuite, je lui fais faire une hygiène de peau extrêmement précise avec un peeling, avec du loufa, mais son loufa personnel et du savon traditionnel qui a des qualités alcalines ou acides intéressantes. Et pour finir, une fois qu'elle avait fait tout ça, elle pouvait appliquer le peu de pommade qu'elle avait, qui avait le maximum d'efficacité. Donc que ce soit un petit tube de pommade ou des écorces désinfectantes, là, on va potentialisé par toute cette prise en charge. Et si vous rajoutez là-dessus qu'il lui a fait accrocher au-dessus de la zone blessée une amulette avec par exemple une fève de Cannavalianiformis, c'est une espèce de haricot rouge contre les sorciers, eh bien vous avez conscience de ce corps et quelque part il y a une restructuration, un peu ce qu'on va entendre dans des histoires où on vous explique qu'en appuyant sur le doigt de pied, on restructure tout le corps en ostéopathie, etc.
On va maintenant partir après
pardon, votre...
Non,
j'étais
long, c'était très intéressant. Mais... C'était très intéressant. On a bien compris tout cet ensemble dans le processus de soins qui est totalement multiple. On part tout de suite pour le Sénégal où on retrouve le docteur Fatima Tassi. Docteur Si, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes docteur en pharmacie à la tête d'une officine à Dakar, ancienne coordinatrice de ENDA Plante Médicinale, hein, ONG internationale, oui. ENDA Tiers-Monde. Alors, quels sont les grands produits, docteur Fatima Tassi, les plus communément utilisés en médecine traditionnelle au Sénégal? S'il fallait en citer, on va dire, 3 ou 4.
Merci, madame, pour l'invitation. Ça va être un peu difficile de dire les produits qui sont beaucoup les plus utilisés, mais
en tout cas,
nous, oui, dans le cadre de mon activité à ENDA Plante Médicinale, on s'était basé sur des enquêtes qui ont été faites au niveau de 5 régions du Sénégal pour les maladies les plus fréquentes. Et quelles étaient donc les plantes qui étaient utilisées pour ces maladies les plus fréquentes? Il y avait une pléthore de plantes qui étaient citées. Mais dans les 5 régions où l'enquête était faite, il y en a 5 qui étaient sorties comme étant les plus utilisées. C'était le Guira sénégalensis contre les toux, c'était Euphorbia irta contre les diarrhées, Tinospora bacis contre les maladies liées au foie. Et le Cassia italica contre les constipations. Et partant de ce fait, il y a une recherche qui a été introduite par ENDA en collaboration avec l'Université de Dakar pour, comme l'ont dit mes prédécesseurs, certifier la qualité de la plante, son efficacité et son innocuité pour les maladies pour lesquelles elle était utilisée.
Alors justement, il y a un point dont on n'a pas encore parlé, docteur Fatima Tassi, ce sont les possibles interactions entre ces plantes et des traitements conventionnels. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre?
Tout à fait, il y a des précautions à prendre parce que, comme on l'a dit, ce sont des plantes médicinales, donc des médicaments. Comme tout médicament, il va falloir certifier, comme on l'a dit, la qualité, l'innocuité, mais également l'efficacité. Et ce sont des plantes qui sont utilisées, comme on vous l'avait dit dans le reportage qui a été fait, les feuilles, des écorces, des racines, à des dosages qui n'ont pas été précisés par la population en général. Chacun utilise comme il peut. On parle ici de poignées, on parle là-bas de bottes. Donc pour standardiser tout cela, c'est pourquoi la recherche a été faite par l'Université de Dakar pour effectivement déterminer la dose qu'il va falloir prendre, les modes d'utilisation, le mode de posologie également en fonction de l'âge de la personne qui va l'utiliser.
Merci beaucoup, docteur Fatima Tassi, d'avoir été avec nous en ligne de Dakar. Je rappelle, vous êtes docteur en pharmacie à la tête d'une officine de pharmacie. On vous retrouve, professeur Roch Wignan. On arrive à la conclusion de l'émission. Toujours en ligne du Bénin, anthropologue de la santé, coordonnateur du programme national de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé. On a entendu brièvement le terme de charlatan au cours de cette émission. C'est souvent un mot qu'on retrouve quand on se renseigne sur ces différentes médecines. Oui. Justement, comment vous, au ministère, vous faites en sorte de sélectionner, on peut dire, le bon grain de l'ivraie? Comment trouver le bon tradipraticien? On le sait, dans les villages, il suffit en général d'aller voir le tradipraticien de la famille, tout simplement.
Oui, merci Caroline pour cette question. Déjà, je voudrais dire qu'il y a deux catégories de praticiens. Il y a cette catégorie qui réside dans un milieu rural, qui dispose d'une pratique à visée thérapeutique, et une pratique très ancienne, empirique, dite non conventionnelle, parce qu'en général, il n'y a pas d'études cliniques telles que perçues aujourd'hui. Donc il y a cette catégorie de praticiens qui peuplent les campagnes dans nos pays. Mais il y a la seconde catégorie, c'est des acteurs qui inscrivent leur pratique dans la recherche scientifique, des extraits actifs standardisés, des acteurs, des personnes qui fabriquent des médicaments pharmaceutiques selon la réglementation, qui viennent au niveau du ministère de la Santé et qui cherchent à obtenir une autorisation de mise sur le marché. Voilà. C'est des personnes qui font subir à leurs produits des analyses de façon à accroître l'acceptabilité, de façon à accroître la qualité, la sécurité et l'efficacité. Donc, je voudrais d'abord distinguer ces deux catégories d'acteurs. Et si vous observez bien en Afrique, la seconde catégorie qui peuple les villes offre des produits avec un souci de s'adapter à l'offre aux maladies affectant les citadins. Vous allez constater que l'offre porte de plus en plus sur des maladies émergentes favorisées par la vie en milieu urbain, notamment avec son corollaire de sédentarité, de surpoids, de stress. Et j'ai bien suivi dans les reportages où on en parlait de diabète, d'hémorroïdes, de dysfonction érectile, donc d'infertilité féminine, masculine. Donc de plus en plus, l'offre en milieu urbain s'articule autour de ces différents maux, également des troubles psychiques, des troubles hépatiques, la drépanocytose, l'hypertension. Et ce qu'il faut également retenir par rapport aux remèdes à base de plantes, et ça, c'est des critiques que nous observons, nous entendons souvent de la part de certains acteurs, comment une seule plante peut traiter plusieurs maladies. C'est possible. Et ceux qui sont intervenus avant moi l'ont évoqué partiellement. Lorsque, par exemple, je prends une plante dont le nom c'est Oxymum basilicum, cette plante, par exemple, a une propriété antifongique, a des propriétés antivirales, a des propriétés antibiotiques, également antitussives. Donc, il est important de ne pas chercher à comparer les pratiques thérapeutiques africaines avec celles occidentales basées sur des molécules purifiées. Donc, au même moment où les plantes ont plusieurs propriétés, concomitamment, elles ont des effets délétères. Les éléments de toxicité ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Donc, il y a un effet positif et également des effets négatifs à souligner.
Merci beaucoup, professeur Roch Wignan. Ce sera pour vous le mot de la fin. Hélas, il nous reste très peu de temps, docteur Alain Epelboin. Ce qu'on peut dire, c'est comment conserver tout ce savoir au moment où on passe à aussi des modes de transmission, bien sûr, par l'écrit, ce savoir de toute cette connaissance orale, est-ce qu'il n'est pas menacé par, justement, des changements profonds de société?
Ce qui est plus menacé, c'est la diversité des plantes disponibles. Mais je voudrais juste dire, moi, je suis obligé de prendre 100 mg d'aspirine chaque jour pour un petit antécédent de maladie, ça fluidifie mon sang. Je suis ravi qu'on offre la possibilité aux gens d'utiliser une plante qui, en l'occurrence, qui sont les écorces de saule, puisque l'aspirine et l'acétylsalicylique, dans tous les écosystèmes du monde, quand il y a des saules, il y a un anti-inflammatoire, il y a un antidouleur. Moi, je préfère prendre mon petit comprimé de 100 mg que d'avoir à me faire ma décoction tous les jours. C'est un choix personnel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas forcément charlatan quand on vous dit, vous faites bouillir des morceaux d'écorce de saule, et ensuite, ces morceaux d'écorce de saule, vous les gainez, 7 morceaux vous attachez sur la zone qui vous fait mal, et ce sont ça les là aussi où le végétal va pouvoir fonctionner par cette pensée symbolique hors toute pensée pharmacologique, et effectivement la personne qui accrochera là où elle a mal, et peut-être ça lui fera du bien, ça redressera son corps, ça participera là aussi à des démarches qu'on entend dans l'ostéopathie.
Merci beaucoup docteur Alain Pelboin, médecin anthropologue au CNRS, une émission de Priorité Santé qui a été conçue en partenariat avec Votre Santé Magazine, magazine panafricain d'information sur la santé dont le comité scientifique est présidé par le professeur Amadou Gallo Diop.
Priorité santé sur RFI.
Le sport, l'activité physique, c'est bon pour la santé. Vous nous le dites chaque semaine, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, vous vous intéressez à la pratique du sport pendant le mois de Ramadan. En France, ça va commencer demain soir, si je ne me trompe pas trop.
Absolument. Alors effectivement, ce jeûne hein, du Ramadan, fait que les sportifs, ne boivent pas, ils ne mangent pas de l'aube au coucher du soleil. Alors le jeûne peut empêcher justement les bonnes pratiques de la nutrition du sport, et cela, on comprend comment ça peut éventuellement affecter la récupération ou la performance. Il faut dire qu'il faut être prudent surtout la première semaine parce que on modifie évidemment ses habitudes alimentaires. Puis les risques, c'est l'hypoglycémie et la déshydratation qui peuvent apparaître, et en diminuant ainsi la force musculaire.
Est-ce que ce jeûne peut avoir un impact sur les performances sportives?
Alors, il n'y a pas de réponse univoque là-dessus, Caroline, hein, parce que les conditions de mise en œuvre, en fait, du Ramadan et les besoins peuvent varier. Alors, selon la durée du jour du jeûne, et des conditions environnementales, cela va faire varier les choses, selon et évidemment l'endroit de l'hémisphère, le pays et puis l'année calendaire. Et puis, le retentissement sur la performance va dépendre évidemment du type de sport également qui est pratiqué. Chaque sportif, en tout cas, devra prendre conseil auprès de son médecin ou de son nutritionniste pour pouvoir mettre en place une stratégie alimentaire qui sera optimum pour sa santé et sa performance.
Alors, quel conseil justement, docteur Jean-Marc Sen, pour celles et ceux qui jeûnent, pour s'entraîner?
Bon, alors idéalement, évidemment, un sportif devrait pouvoir voir avant, pendant et après les entraînements. Donc, première situation, il peut quelquefois changer l'horaire, la durée et l'intensité de sa séance, hein, dans certains entraînement, c'est tout à fait possible. Quand c'est impossible de modifier ses horaires, théoriquement, il faudrait adapter cette durée, cette intensité d'exercice à son état nutritionnel, son état d'hydratation et les conditions extérieures, sans dépasser, bien sûr, ses limites physiques. Alors, si par exemple le sport a lieu le matin, il va encore bénéficier de la prise récente alimentaire, malheureusement, il ne pourra pas restaurer et récupérer puisqu'il sera en jeûne. À l'inverse, si on est juste avant la rupture du jeûne, le soir, il pourra parfaitement récupérer. Et puis enfin, troisième situation, il peut avoir une séance pendant la rupture du jeûne, 2 à 3 heures après, bien évidemment. Là, il faudra faire attention à bien dormir.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À ces tous à Maquet, Ophélie Lassène, Baptiste Madigny aujourd'hui et Didier Bleu. Demain, nous parlerons de l'hypertension artérielle. Pour témoigner, pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler 33 84 22 75 75 et nous réécouter bien sûr sur RFI.fr, rubrique émission. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.